CFM Villefranche, le mag.
Le mag, oui, édition de ce 25 octobre. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et bon début de semaine. Bonjour Karine.
Bonjour David et bonjour à tout le monde.
Le rendez-vous du lundi, le mag Aveyron, santé, bien-être, fleurette, pâquerette et assiette avec vous pour cette première partie. Et un petit peu plus tard, le retour de Didier Valette. On va parler de biodynamie après la musique. Pour le coup et pour l'instant, de quoi allez-vous nous rassasier les oreilles, Karine?
Je vais déjà vous poser une question,
David. À moi ?
Et oui, à vous. Est-ce que vous mangez vite ou lentement ?
J'aurais plutôt tendance à manger vite, mais vite. Oui.
C'est grave. Ennuyeux.
C'est grave, docteur.
Alors grave, j'aurais pas dit ça. Ennuyeux, ouais. Peut-être un petit peu plus. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important ?
Ennuyeux dans le temps. C'est une mauvaise habitude dans le temps, non ?
C'est une mauvaise habitude tout court.
J'ai envie
de vous dire.
Parce qu'on découpe pas les aliments, ça fait forcer les intestins, la digestion est plus lourde, plus longue. Donc moi j'ai choisi de ne plus manger le midi. Voilà, comme ça.
Alors ça, c'est pas la meilleure idée que vous ayez eue, David, si je peux me permettre.
Par contre, je mange très très vite le soir parce que j'ai très très faim.
Et voilà. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire.
Bah oui.
Et d'où, effectivement, un des premiers risques quand on mange vite, c'est la prise de poids. Parce que si on ne mange pas ou si on mange vite, et ça veut dire qu'on mange beaucoup plus. Et donc, du coup, c'est un risque de prise de poids.
Mais vous faites exprès de me poser ce genre de questions à moi?
Exactement, parce que je connaissais votre réponse. Alors, blague à part, effectivement, essayer de ralentir la vitesse d'ingestion, puisqu'on appelle ça comme ça, c'est important quand on veut essayer de gérer et d'éviter une prise de poids. Parce qu'en fait, le cerveau va mettre entre 20 et 30 minutes pour commencer à capter que l'on a mangé, que l'on a absorbé des choses qui sont dans notre estomac.
Qu'on est donc rassasié.
Et donc, effectivement, au bout de 20-30 minutes, le cerveau est en mesure de nous dire, je détecte, vu la taille de ton estomac qui se distend un petit peu, que tu as déjà mangé. Oui. Et dès que le cerveau reçoit ce message, il est en mesure de nous envoyer des messages de satiété en disant, c'est bon, là j'ai suffisamment mangé.
Si c'est vraiment très très bon, moi je continue à manger.
C'est autre chose, ça s'appelle la gourmandise.
Il peut m'envoyer tous les signaux qu'il veut, c'est dingue, je continue là.
Mais par contre, c'est vrai qu'en deçà de ces 20 minutes, on pourrait ingurgiter des quantités astronomiques de nourriture parce qu'il y a des concours, par exemple aux États-Unis, ceux qui font les concours de celui qui va manger le plus de pizza, effectivement, ils parient sur ce genre de choses.
Oui, ou de burgers. On a des melons, on avait un concours de melons à Jouels, je crois,
Ouais. Donc en tous les cas, effectivement, manger doucement quand on veut faire attention à sa ligne, c'est très important. Vous l'avez dit aussi, c'est très important pour la digestion, puisque dans la salive, on le disait sur une précédente rubrique, dans la salive, il y a déjà des petites enzymes qui permettent de pré-digérer, donc ça veut dire que quand les aliments vont arriver dans notre estomac, une partie du travail sera déjà faite, et donc on sera plus tranquille. Sinon, on a tous connu, en mangeant vite, ce coup de barre que l'on a après le repas. Ça peut venir en partie de là. Donc, c'est important. C'est important aussi parce que quand on mange très, très vite, c'est vrai que du coup, on est un petit peu plus stressé. On va vite, tout va vite. On ne prend pas le temps. Donc, ça permet aussi de... je me pose, je mange plus tranquillement. Et du coup, je diminue un petit peu mon stress aussi par là. Ok, ça, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.
Au quotidien,
vous pourriez faire, David? Donnez-nous vos astuces pour essayer de manger plus lentement.
Alors, vous connaissant, il y a une application, parce que vous êtes très connecté, Karine Justo, une montre ou une boucle d'oreille Bluetooth qui nous pince l'oreille quand on va un peu trop vite, quand ça mastique un peu trop vite, au niveau des mandibules, là, on se reçoit une petite décharge. Non,
c'est pas une solution, ça ? Alors, non, je n'ai pas d'appli, ça pourrait, ça reste à inventer, je vous en prie, allez-y. C'est anecdotique, mais effectivement, il existe des cuillères qui, si vous voulez, si elles enregistrent des cuillères, elles ne sont pas connectées, mais enfin, si elles enregistrent un va-et-vient un petit peu trop important, elles vont stopper, en fait, elles vont se mettre à vibrer.
elles se ramollissent, on ne peut plus rien en faire. C'est formidable, on n'arrête pas le progrès.
Elles se mettent à vibrer, donc les aliments tombent à côté, donc effectivement...
Mais arrêtez, c'est une blague, Karine.
Vous avez été à la foire de Paris, mais la foire de Paris, c'est au mois de mai.
Non, c'est pas une blague, ça existe.
C'est un gadget.
Ça existe, vous regarderez sur Internet, ça vaut 30 ou 40 euros et ça existe réellement. Bon, ceci dit, c'est anecdotique. Hein. J'ai jamais essayé et j'en ai jamais vu en vrai pour tout vous dire.
Ouais.
D'accord. Par contre, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être rigolo en termes d'ustensiles, hein, ouais, c'est d'utiliser soit des petites cuillères, par exemple pour manger la soupe, ou soit des baguettes chinoises. J'ai beaucoup de patients qui font ça, hein, qui prennent des baguettes chinoises pour manger moins vite, à moins d'être un expert de la nourriture asiatique. Mmh. Mais ça, c'est des choses qui peuvent ralentir le repas. Ce qui peut ralentir le repas aussi, c'est d'essayer d'avoir à chaque fois des aliments qu'on va devoir mâcher. Hein, si on mange mou, c'est-à-dire si on mange une soupe, une purée, une compote, effectivement, plouf, ça va directement descendre. Tandis que si on a des choses qu'il nous faut bien mâcher, forcément, on va allonger le temps. D'accord. Ce qu'on peut faire aussi pour les gens qui ont plusieurs composantes dans le repas, type entrée, plat, fromage, dessert, c'est se dire, je ne mets pas tout forcément tout de suite sur la table, mais je mange l'entrée, je vais prendre le temps après de ranger le reste ou faire la vaisselle du saladier.
Ouais.
Ce qui se pratique aussi beaucoup dans les familles, c'est on arrive toujours à trouver un des membres de la famille qui mange plus doucement que les autres.
Oui.
Et donc le petit défi, c'est de se dire, il va falloir que ceux qui mangent vite se calent sur celui qui mange moins vite finalement. Et puis si on a des enfants, on peut se dire, celui qui finit de manger en premier, c'est lui qui range la table. Enfin, vous voyez. Dernière petite chose peut-être qu'on peut dire, au boulot, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Dans ces cas-là, si c'est possible, ne prenez que le plat principal entre midi et deux, et puis décaler le dessert à dans l'après-midi. Vous voyez, hop, voilà, ça allonge un petit peu. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de patients qui me parlent et qui mangent vite, je trouve. C'est quelque chose dont je parle souvent, donc je me suis dit que c'était intéressant, effectivement, de le redire à l'antenne.
Merci Karine. Karine Vec, juste où on suit votre actualité sur votre page Facebook, votre compte Instagram, votre site internet, sur TikTok, TokTok et PicPoc. On retrouve dans un instant une sommité fleurie, Didier Valette, spécialiste de la biodynamie, précurseur en Aveyron. Il a débuté dans les années 80. Didier Valette, après un peu de musique. Merci Karine, belle journée.
Belle journée aussi à tout le monde. À la semaine prochaine.
CFM Villefranche, le mag.
Time. just look away and say glory. Thank the Lord for another day, glory. I've got eyes to see, ears to hear, voice to talk. Glory, 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 glory. Nobody knows. Oh no, no. Nobody knows. Nobody knows. Oh, my sorrow. Glory, 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 glory.
CFM Villefranche, le mag.
Allez-vous venir nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité. Les lundis, vous le savez bien, santé, bien-être, fleurette et pâquerette, avec, comme annoncé dans les studios, une sommité fleurie de la biodynamie. Didier Valette de retour. Bonjour Didier.
Bonjour David.
On va parler du vivant et on va prolonger notre quelque part, introduction à l'agriculture biodynamique, bioguiche, dynamiche, le dynamisme des forces vivantes. J'ai eu un peu peur à la fin de votre première intervention, on commençait à partir dans le cosmos, mais il est question de ça aussi avec la biodynamie, ce qui se passe entre la Terre et le ciel notamment. La biodynamie, aux origines, c'est Rudolf Steiner qui a expliqué un certain nombre de concepts.
Oui, c'était quelqu'un de formation scientifique, il sortait de l'école polytechnique de Vienne, philosophe aussi, donc il a écrit des livres de philosophie, comme à cette époque-là, souvent les scientifiques étaient en même temps, c'était pluridisciplinaire, disons. Hein. Et cette conférence qu'il a fait sur, qui a duré une semaine, qu'il a fait sur l'agriculture, c'est un peu comment dire, une conclusion de toute sa réflexion d'une vie, sa réflexion scientifique et philosophique d'une vie quelque part, appliquée à la nature, appliquée au monde du vivant, disons.
Rendre le sol sensible, c'est ça, ça fait partie des principes de base de l'agriculture en biodynamie.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que Pour que le sol réagisse bien, il faut qu'il puisse recevoir tout ce qui vient de la terre et tout ce qui vient du ciel par l'intermédiaire de la lumière et de la chaleur, quelque part. Mm-hmm. Donc, il n'y a aucun blocage. À ce moment-là, quelque part, tous les êtres vivants qui sont dans le sol, parce qu'il y a plein... c'est une grande cuisine, il y a une myriade de cuisiniers et de serveurs pour apporter sur un plateau aux plantes leur nourriture et ainsi de suite.
Des
auxiliaires. Il faut que tout ça travaille, quelque part. Il faut un bon... Et l'agriculteur n'est que le chef d'orchestre, en fait. Et c'est pas lui qui fait, il faut que l'équipe soit en bonne forme. Voilà.
Alors c'est vrai que quand on parle d'agriculture biodynamique, sans rien y connaître comme ça entre nous, on associe très rapidement cette pratique au calendrier. C'est à partir du moment où j'ai mon calendrier lunaire, je fais de la biodynamie. Ça va un petit peu plus loin que ça quand même.
Oui, mais ça, on pourra en parler un peu après quand même, dans une prochaine émission. Il y a des rythmes dans la nature, des rythmes saisonniers, des rythmes dans la journée, des rythmes de la lune, c'est vrai, mais c'est pas les seuls rythmes. Il y a le rythme du soleil, voilà. Donc, oui, c'est comme il y a des rythmes biologiques, on n'en parle pas assez, pour les enfants, par exemple. Il y a des moments où ils peuvent apprendre, d'autres moments où ils peuvent pas apprendre. Dans la nature, c'est pareil, il y a des rythmes, il y a des moments où le sol peut faire certaines choses, d'autres moments où il peut pas. Donc, alors c'est vrai qu'on transforme ça à coup de technique, avec des serres chauffées, avec des lampes qui imitent la lumière du soleil.
Avec des minuteurs.
Pour essayer de... Mais bon, on sait souvent que ces légumes produits comme ça, on a pu s'en rendre compte nous-mêmes en tant que consommateurs, ils ont pas de goût. Et donc, quelque part, qu'est-ce que le goût ? Pourquoi des légumes ont-ils un goût et d'autres n'ont pas de goût ? Est-ce que c'est simplement dans les molécules qu'on trouve ça ou, voilà, donc, des grands mystères encore.
Didier Valette, invité de cette deuxième édition du magazine d'actualité. On va se voir un petit peu plus fréquemment pour cette saison, pour parler de biodynamie, mais pas que, de plantes aussi. Vous avez été herboriste, de plantes aromatiques et médicinales, de leurs propriétés. Et pour le coup, la dernière fois, lors de notre dernier entretien, moi j'aime bien le côté un peu, on se met les mains dans la terre, on commençait à parler de ces plantes, en fait, qui vont favoriser le vivant de notre compost. On était au début de la préparation d'un compost et de ces forces vivantes qui vont s'exprimer un petit peu plus tard dans nos cultures, notamment, ou l'alimentation qu'on pourrait donner aux animaux. Il y avait 6 plantes. On avait commencé à parler, je crois, du pissenlit, mais j'en suis pas sûr. Peut-être qu'on peut parler des autres plantes qui font partie de cette petite préparation, cette mixture qui est une base. Hein.
Oui, oui. Donc, ces plantes qu'on pourra un petit peu voir leur caractère, voir leur tempérament, leurs propriétés par la suite... Je les cite un petit peu dans un certain ordre qu'on expliquera plus tard. Donc, il y a l'achillée millefeuille, déjà. Il y a la matricaire camomille. On expliquera. Après, il y a l'ortie. L'ortie, que
tout le monde
connaît.
Et reconnaît.
Et reconnaît, ouais, à son piquant. Il y a le pissenlit. Il y a la...
On est en pleine période du pissenlit, là. Il y en a en pagaille.
Oui, parce qu'on a un petit printemps. Normalement, c'est quand même au printemps, le pissenlit. Les fleurs jaunes, c'est les fleurs du printemps, normalement. Oui. Mais l'automne, ben voilà, il a plu, il y a de la chaleur. Là, aujourd'hui, spécialement, il fait chaud. Et donc, on a dans des conditions, une durée de luminosité dans la journée qui correspond au printemps. Hein. Ce sont les équinoxes, hein, printemps-automne. Hein.
Oui.
Pâques et la Saint-Michel.
Donc, pissenlit.
Dans le pissenlit, on le retrouve, là, il y en a qui fleurit, oui. Ouais. Et après le pissenlit, donc on utilise le chêne aussi, sous forme d'écorce. Et puis, la dernière plante qu'on utilise, c'est la valériane. Alors, la plupart du temps, ce sont des fleurs qu'on utilise, parce que c'est la partie, ça on pourra l'expliquer aussi plus tard, c'est la partie la plus cosmique. La racine, c'est ce qu'il y a le plus terrestre dans une plante. La feuille, elle est entre les deux, si on veut, et la fleur, elle est vraiment tournée vers le ciel, quelque part, pour donner ensuite une graine et la reproduction de la plante. Donc,
c'est l'antenne, c'est le récepteur, voilà, c'est là où il se passe tout.
Donc, comme ces préparations vont être là pour ouvrir le sol au cosmos, quelque part, c'est plus les fleurs qu'on utilise. Dans le chêne, c'est difficile d'utiliser les fleurs, donc on va utiliser l'écorce, qui a quand même une partie extérieure de la plante quelque part. Il n'y a que l'ortie où on l'utilise à la partie entière de l'ortie. Voilà, donc ces plantes, déjà, il faut savoir qu'on l'expliquera par la suite, elles sont préparées d'une certaine manière, elles sont mises à fermenter d'une certaine manière, et ce qu'on obtient, c'est pas, on n'utilise pas les fleurs par elles-mêmes, ni humide ni sèche, on utilise ce compost de fleurs, si on veut.
Ah d'accord, moi je pensais qu'on mettait ces fleurs en petite quantité directement dans son compost à la maison,
Ah non, ce sont des plantes qui sont préparées, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a fait dernièrement dans le cadre de notre association de biodynamie dans le Quercy-Rouergue. On a préparé ces plantes, elles vont passer un hiver à se transformer, et c'est compost de fleurs ou d'écorce qu'on va utiliser en toute petite quantité, c'est-à-dire pour, par exemple, à peu près 10 mètres cubes de compost, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à café rase de chacune des plantes.
Oui, c'est trois fois rien, vraiment.
Donc, voilà, c'est pas... Et c'est pour ça, on n'est pas dans une agriculture quantitative, c'est pas des quantités qui interviennent, c'est une agriculture qualitative, c'est-à-dire on va rechercher la propriété de la plante, la qualité de la plante, quelque part. C'est... Bon, voilà, ça s'explique pas en termes de... logiquement, ça peut s'expliquer, mais pas avec les mêmes axiomes de départ que les sciences, comme les sciences nous expliquent actuellement la matière, quelque part. C'est-à-dire, on peut avoir des axiomes de départ, par exemple, je prends un exemple tout simple en 10 secondes, les mathématiques, la géométrie euclidienne considère que deux droites verticales sont parallèles et ne se coupent pas. Et on va construire toute une géométrie logique là-dessus, avec des rectangles, des carrés, des choses comme ceci. La géométrie de Riemann considère que deux verticales ne sont pas parallèles et qu'elles se coupent à l'infini. Donc, et ce sont des droites qui ne sont plus droites, vraiment. Donc on est dans une logique totalement différente, mais on a été obligé de créer un axiome de départ qui paraît contradictoire à d'autres géométries, mais parce que quand on voulait envoyer une fusée dans l'espace, elle retombait sur Terre avec la géométrie euclidienne. Donc il a fallu créer une autre géométrie avec un autre axiome de départ qui paraît au départ contradictoire. Mais toute la logique qui est construite après fait que cette méthode de géométrie fonctionne.
Voilà. Alors on l'avait évoqué aussi lors de notre dernier entretien, pourquoi la biodynamie n'est pas plus répandue? Comment ça s'explique?
Oui, parce que bon, je pense que il y a environ 1500 ou 2000 fermes qui la pratiquent en France, donc c'est rien du tout par rapport au nombre de fermes. Comme je suis en train de vous le dire, là, c'est pour la comprendre, il faut sortir un petit peu du modèle ordinaire de compréhension, où on va vous dire, bon, ben, pour lutter contre telle maladie, on apporte telle molécule. Et l'agriculture biologique va essayer de trouver une molécule qui vient du règne naturel, qui ne soit pas de synthèse. Dans ce cas-là, avoir des choses qui sont autorisées. Tandis que nous, on va beaucoup plus loin, on essaye de comprendre l'origine du déséquilibre et d'intervenir naturellement pour contrer ce... Donc ce n'est pas forcément une démarche... c'est une démarche qui demande une implication personnelle très très grande. Voilà, c'est pas une méthode comme ça...
qui s'improvise...
On va vous dire, tu fais ceci, tu fais cela, là t'es sûr, t'as le mildiou, tu passes tel produit systémique, t'auras plus le mildiou. Donc, et en bio, on a déjà fait un effort, mais quelque part, on est dans le mode de raisonnement toujours le même. On va chercher le produit qui est autorisé, voilà. Tandis que dans la biodynamie, ça demande une implication personnelle beaucoup plus grande, qui n'est pas forcément, sans porter de jugement, voilà, c'est pas forcément tout le monde qui peut y arriver.
Allez, c'est une double introduction à la biodynamie. On se donne rendez-vous d'ici 15 jours, Didier Valette, oui. si vous le souhaitez, pour peut-être commencer à rentrer dans les préparations, et puis peut-être s'arrêter sur les 6 plantes que vous nous avez présentées, qui servent aux préparations de base de l'agriculture en biodynamie. Merci, belle journée.
Merci.
À dans deux semaines. Merci.
CFM Villefranche, le MAG.